Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Florence Colombani, Muriel Joudet, Philippe Azoré. Nous allons parler ensemble de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, Ad Astra de James Gray, Les fleurs amères d'Olivier Meiss. Et puis il y aura un coup de cœur de Florence Colombani pour la nouvelle saison de la troisième scène, la scène numérique de l'Opéra de Paris. Nous ouvrons cette dispute avec Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma qui est revenue de la croisette avec le prix du scénario. Elle y a donc inventé un personnage de femme peintre qui en 1770 se rend sur une île bretonne pour y réaliser le portrait d'une jeune fille promise à un mariage, un portrait dont elle ne veut pas, pas plus que du mariage. Hein. Le portrait il a pour fonction de faire sa publicité, on va le comprendre, auprès de son futur mari.
L'homme intéressé par ma fille est Mélanin. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît.
Vous partirez.
Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé d'épouser. Il n'a jamais vu son visage.
Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte?
Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours.
Elle pense que je suis là pour la surveiller.
Et vous, vous la regardez. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière?
Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards.
De le redonner comme ça. C'est pratique. Si on parle du film de Céline Sciamma, il y a un premier tour de table, un résumé de l'impression de la critique que vous allez développer, Florence Colombani.
L'audace de la simplicité.
Philippe Azoury.
De la retenue, peut-être un peu trop, on verra, pour l'interrogation.
Muriel Joudet.
Une tentative de romanesque qui est complètement abîmée par une volonté de discourir.
Allez, on développe tout cela. En premier lieu, Florence Colombani, donc.
Oui, moi, j'ai été très sensible à la simplicité de ce film. Je trouve que le cinéma de Céline Sciamma s'épanouit là avec un vrai lyrisme dans une histoire d'amour finalement très simple qui n'a pas tant de surprise scénaristique que ça finalement malgré cette
c'est
espèce
moins
de suspense
dire, si tu me permets.
Malgré cette espèce de suspense qu'il y a au départ sur le fait que est-ce que Adèle Haenel va comprendre que la jeune fille qui est là pour la peindre et non simplement pour l'accompagner en promenade sur la plage. Très vite, ça, c'est un enjeu qui disparaît. Et ce qui suit, c'est l'étude de l'épanouissement des sentiments entre ces deux personnages. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on a pour une fois, dans un film de rencontre amoureuse, une véritable compréhension de ce qui séduit l'une chez l'autre. Et tout n'est pas mis sur le compte d'une attirance, d'une sensualité, en plus d'un tabou de l'homosexualité féminine au XVIIIe siècle. C'est plutôt la rencontre de deux personnes singulières, et notamment de la singularité du personnage d'Héloïse que joue Adèle Haenel, qui explique l'épanouissement de cet amour. Et je trouve que ça fait du bien de voir une étude, et c'est vraiment une étude parce que on est concentré sur ces deux personnages, avec le personnage de la servante qui est une sorte de contrepoint, mais finalement la focalisation est quand même essentiellement sur les deux jeunes femmes. Et ça fait du bien de voir un film qui donne le temps au spectateur de faire connaissance avec deux êtres singuliers, très bien incarnés par deux très, très belles comédiennes, évidemment Anne Dalenel, dont on connaît la palette, mais aussi Noémie Merlant,
oui.
Que je ne connaissais pas personnellement, que j'ai trouvé vraiment remarquable.
Muriel Jodé.
Alors moi j'ai un problème avec l'incarnation, Adèle Hanel dans le film. Et pour moi c'est vraiment symptomatique de ce qu'est le film, c'est-à-dire qu'il est travaillé par deux courants. Un courant totalement romanesque, vraiment une sorte de pureté romanesque qui vise Titanic, la leçon de piano. On sent un vrai désir de fiction, mais qui est totalement entravé selon moi par une volonté théorique, une volonté de discourir. Et ces deux pôles-là, pour moi, sont représentés par les deux actrices. Donc on a Noémie Merlant qui est sans distance par rapport à son personnage. Elle trouve la justesse pour incarner cette femme peintre. Et Adèle Hanel, qui pour moi a un jeu tellement de notre époque, tellement contemporain, que j'ai l'impression d'être dans l'esquive de Kéfi, vous voyez. C'est-à-dire que ce truc de atelier théâtre où son parler extrêmement d'aujourd'hui n'arrive pas à coïncider avec le film d'époque. Et ce qui me fait dire que je pense qu'il n'y a pas de film d'époque, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un espace... Le film n'ouvre pas, ne déploie pas un espace imaginaire qui nous ferait nous transporter au XVIIIe siècle. On est en 2019... avec des actrices d'aujourd'hui en costume. Pour moi, je vois ça. C'est ça qui m'empêche de ressentir quelque chose, d'être émue, de me sentir emportée comme Titanic m'emporte, alors que vraiment, il y a une volonté très forte de film populaire, émouvant, romantique, mais l'espace qui est ouvert n'est pas celui... le film d'époque n'est pas pris au sérieux. N'est pas pris au sérieux. Le discours, lui, est pris au sérieux. Et moi, il y a une scène qui me dérange énormément et qui résume un peu mon avis sur le film. Et je vais la raconter parce que je pense qu'elle ne divulgage rien. C'est une scène d'avortement avec la servante qui, donc, doit se faire avorter et qui se fait accompagner par Noémie Merlant et Adèle Hanel. Et on sait très bien ce que va faire Céline Sciamma. Et elle a raison de le faire. Elle filme l'avortement. Bon, la scène n'est pas si violente que ça. Et Adèle Hanel regarde la scène. Noémie Merlant détourne les yeux. Et là, on a cette réplique que je trouve terrible à tous les niveaux. On a Adèle Hanel qui se tourne vers Noémie Merlant qui lui dit « Regarde ». Alors, on avait déjà compris. Dès que la scène a commencé, on avait compris. Donc, il y a un manque de confiance absolue en ce que Sciamma essaye de faire, un manque de confiance absolue en ce que le spectateur est, c'est-à-dire un être doué d'intelligence. Et encore, la scène est redoublée ensuite par une scène où on va peindre l'avortement. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris qu'au cinéma, il manque des scènes d'avortement, on vous le fait comprendre trois fois. Mais pourquoi ? Le romanesque aurait pu prendre ça en charge tout seul, sans ce regard qui est tellement, tellement 2019, en fait. Voilà. Alors qu'on est censé être au XVIIIe siècle.
Philippe Azoury, enfin, sur le portrait de la jeune fille en feu.
Non, ça m'aide beaucoup d'écouter tout à la fois Florence et Muriel, parce que c'est un film que j'avais pas vu à Cannes. J'ai l'impression que je suis à rebours de ce que mes collègues critiques ou amis ont pu vivre. Je sens à Cannes d'un effet très fort à la sortie, qui s'était un peu évaporé au fur et à mesure des jours. Moi, c'est l'inverse, j'ai vu le film mercredi soir, j'en suis sorti, je ne pensais pas grand chose du film. Ni en bien ni en mal, c'est ça qui est très 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 tout bon. Bon, après je pense pas grand chose de rien, donc ça
c'est pour ça que vous êtes là, bien sûr.
Pas d'habitude, mais je veux dire, bon voilà, j'étais assez, enfin le film était un peu passé dessus. Et là c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression depuis quasiment maintenant 48 heures que le film travaille en mieux dans mon souvenir. Mais peut-être parce qu'il y a entre le film qui m'a été vendu, on va dire, entre le titre, les entretiens multiples, la rumeur cannoise, le prix, et puis même voilà la sortie qui est très très réussie. On a quand même l'impression que le plan promo marche très fort. Et ce titre, en tout cas Portrait de la jeune fille en feu, qui donne l'impression d'un film porté par un désir de tout brûler, de consumer, avec un geste militant très fort. À commencer par le fait qu'il n'y a pas un seul instant un acteur, il n'y a pas de personnage masculin, il n'y a pas de figure masculine dans le film.
Il y en a un qui vient chercher le tableau.
Ah. Il y en a un qui dépose sa peintre, il y a les marins du début.
Voilà, mais bon,
deux minutes au début, deux minutes à la fin.
Là, c'est évacué, c'est soustrait. Moi, ça me. C'est un choix qui m'intéresse.
C'est très bien.
Oui, moi, ça me va très bien. Ça me gêne pas du tout.
Il y a quatre personnages féminins, point.
c'est une histoire de femmes qui se passe entre femmes et dans une sorte de, voilà, de monde clos. J'avais quand même l'impression, au fur et à mesure, que je pensais, en tout cas, après c'est compliqué, ce qu'on pense d'un film avant, ce qu'on imagine ou ce qu'on attend d'un film avant de le voir, je pensais que l'absence d'hommes fallait que les hommes hors champ créaient une sorte de tension, en tout cas qu'il y avait un ennemi, enfin voilà, qui serait l'homme. Pas du tout. Et c'est l'absence finalement de tension totale à l'intérieur du film qui m'intrigue. Et c'est pas l'absence des hommes. C'est-à-dire qu'au final, on est dans un film où la question de l'amour femme ne pose pas de problème, moi elle m'en pose pas non plus, face à des spectateurs à qui ça n'en pose pas, à une metteur en scène qui n'en pose pas, et finalement un scénario qui va être celui de la rencontre et ensuite de la relation amoureuse qui comme l'a dit Florence, enfin je veux dire, voilà, qui ne crée pas de surprise, qui fait son travail de scénario et qui développe plutôt pas mal d'ailleurs enfin les scènes. Et j'en sors avec l'idée que il me manque la combustion, c'est-à-dire il me manque un moment d'opposition, de tension, de colère, et ce qui a été même, enfin ce qui est toujours la marque et vraiment, enfin on peut applaudir souvent des deux mains de la prise de parole de Céline Sciamma. Et ça m'a surpris au début en sortant mercredi soir du film, mais aujourd'hui c'est la qualité presque de silence, de calme très très troublant qui me reste en mémoire et que je pense qu'il me faudrait un peu plus de temps pour interroger ça, parce que au début j'étais très surpris par ça comme une sorte de mollesse, et aujourd'hui j'entends une forme de silence un peu mat comme ça, très très bizarre finalement, qui travaille beaucoup.
Alors j'ai à peine quelques heures de plus que de recul que vous, j'ai vu mercredi midi, donc mais j'ai pas fait le même travail que vous, parce que ce film m'a assez profondément agacé pendant sa projection. Et je l'avoue que je n'y pense pas en meilleurs termes depuis, dans la mesure où il est quand même très très académique dans sa forme, qui propose pas de gestes cinématographiques comme a pu le faire par le passé Céline Sciamma, dont les films pouvaient plus ou moins m'intéresser, souvent plus que moi d'ailleurs. Là, c'est vraiment pas le cas. C'est vrai que l'inscription dans le genre, elle est pour moi de ce fait ratée. On parlera de James Gray tout à l'heure, et c'est intéressant de comparer aussi deux cinéastes auteurs qui s'inscrivent dans un genre. Je crois que ça, les films, c'est bien de les vous regarder en miroir. Contrairement à vous, Thierry Muriel Jodet, moi qui n'ai pas une grande passion pour Adèle Haenel, généralement, et là, j'ai aperçu des subtilités dans son jeu que j'ai quand même beaucoup de mal à voir dans la plupart de ses précédents rôles. Et je trouve que le film aurait davantage gagné à être davantage dialogué, parce qu'il me semble que là quand même il se passe des choses, et qu'à trop vouloir jouer sur les regards, parce que regarde, mais c'est un film de regards, enfin si on n'avait pas compris, c'est vraiment extrêmement lourd. Et je trouve que si la tension arrive, elle arrive par les dialogues et pas du tout par la mise en scène, ce qui est quand même un peu gênant, mais les intentions pour le coup de la réalisatrice sont si claires, comme vous l'avez dit très justement. Je m'inscris pleinement là-dedans, Muriel Jodet, que moi je m'étonne qu'elle ait le prix du scénario, parce que vraiment c'est quand même, c'est un scénario, c'est un programme qu'on affiche à chaque scène de son film, ça me semble un petit peu compliqué. Et puis ça va très bien où ça va, et parce que le vrai titre c'est quand même Autoportrait de Céline Sciamma, c'est pas Portrait de la jeune fille en feu, enfin c'est bien l'acte artistique, l'artiste femme, enfin il y a tout ça aussi qui est sursouligné pendant beaucoup de temps dans ce film. Et le personnage de la servante, moi, m'avait intéressé, on va peut-être revenir là-dessus avec vous Florence Colombani, parce que il y avait une possibilité, mais là encore je trouve que on comprend très bien pourquoi Céline Sciamma fait intervenir ce personnage, parce qu'elle a des choses à nous montrer, et des choses qu'il faut qu'on regarde, et du coup, je trouve ça terrible, parce que cette servante, elle devient un accessoire, en fait, du scénario, et je trouve ça très triste, parce qu'il y avait un personnage, et une ébauche de relation à trois. Il y a une séquence qui m'a beaucoup plu, où les rôles sont inversés, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais c'est une scène de cuisine, tout d'un coup, je me dis, ah, est-ce que ça bascule? Ben, il n'y aura hélas pas de suite pour moi. Bon, ça fait beaucoup de critiques en une seule prise de parole. Florence Colombani.
Non, mais moi, ce que j'aimerais défendre dans ce film, c'est un peu ce que disait Philippe, c'est-à-dire ce calme et cette absence peut-être de programme, là où vous voyez uniquement le programme et vous voyez uniquement les intentions. Moi, je vois aussi la description de quelque chose de très délicat et touchant qui m'a beaucoup rappelé, en fait, étrangement, un film qu'elle ne cite jamais dans ses références, qui est Sur la route de Madison. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une rencontre qui est destinée à ne durer que quelques jours. En plus, c'est cadré par le départ de la mère qui s'absente 5 jours. Donc, on sait que c'est ça, la durée qu'elles ont. Et je trouve que il y a quelque chose de cette sensibilité-là à l'histoire d'amour, dans ce qu'elle réussit entre les deux personnages. Et par rapport à La Servante, j'ai aussi pensé aux proies. C'était, il y a quelque chose d'un cinéma comme ça, avec aussi la communauté féminine, l'étrangeté aussi de ces femmes, avec ces scènes musicales très belles. On n'en a pas parlé, mais il y a une scène de fête avec un chœur de femmes qui chantent en latin, qui sont presque comme des sorcières, où il y a quelque chose d'inquiétant tout à coup qui se
déploie. Ça, c'est dans la bande-annonce qu'on a entendu.
On l'a entendu dans la bande-annonce. Et il y a aussi l'utilisation de Vivaldi à la fin, que j'ai trouvé vraiment très, très belle, parce que unique, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas ça plusieurs fois pendant le film. Il y a un moment de musique qui est un vrai moment de lyrisme. Et je trouve que, contrairement à vous, pour moi, le film n'est pas seulement programme. Le film a ces moments où il y a un épanouissement qui va au-delà.
Noël Jodet.
Mais je vois le film que vous décrivez, Florence, mais moi je vois aussi l'énergie qui joue contre ce romanesque vraiment très populaire. Et sur La route de Madison, voilà, ça fait partie de ces... elle veut faire une très grande comédie, un grand mélo, et je vois le film exister, mais elle ne laisse jamais ses personnages tranquilles. Le discours ne laisse jamais ses personnages tranquilles. Et moi, c'est quelque chose qui, je pense, va me déranger de plus en plus au cinéma, surtout de la part de cinéastes, hommes et femmes, qui veulent plus dire que montrer et qui ignorent, en fait, que alors, je pense qu'elle a confiance en l'émotion que porte ce film, mais l'émotion peut tout, au sens où l'émotion peut remplacer le discours. On peut être convaincu juste avec l'émotion. Et pour moi, le film qui essaye vraiment de... Moi, j'ai pensé au Temps de l'innocence, parce que de Scorsese, mais le Temps d'innocence, ce n'est que de l'émotion pure. Et il fallait peut-être que essayer d'habiter l'émotion et laisser tomber le discours. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais pour moi, le discours vraiment gâche et abîme le film, mais totalement. Et pourtant, à la fin, je vois le potentiel lacrymal de la fin. Mais ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout.
Allez, Philippe Azoury, pour conclure
oui,
cette séquence.
Oui, mais je veux un peu poursuivre sur ce que disent à la fois et Florence et Muriel, c'est-à-dire que, et vous-même Arnaud, c'est-à-dire que la question de l'académisme, évidemment, on se la pose, en partie parce que le film commence quasiment comme un copier du tout début de La leçon de piano, qui était un film académique d'une cinéaste qui, elle, était une grande cinéaste moderne jusque-là, qui était Jane Campion. Je suis pas certain que Portrait de la jeune fille en feu soit un film académique, même si je lui en ai fait le reproche pendant la projection. Je pense pas au final. Si on regarde bien, en étant complètement honnête, le film n'est pas académique. Il se fait plutôt, j'ai l'impression, une idée de la modernité qui est presque candide à certains endroits. Et c'est peut-être cela, là-dessus que je rejoins Muriel, c'est-à-dire que sa modernité, c'est de dire très haut, très fort et d'appuyer. Alors qu'en fait, la modernité depuis une trentaine, une quarantaine d'années, c'est d'aller de plus en plus vers des blocs de sensations, de silence qui donne une émotion. Moi, l'émotion, je l'ai pas eue non plus. C'est ça qui est troublant. Je l'ai après maintenant. Je commence à travailler sur le film. Mais l'émotion à l'image, la combustion, je l'ai pas sentie. C'est troublant. Mais c'est peut-être moi. Je sais pas. Je suis un peu désemparé par ce film. Non, mais vraiment, en bien, enfin, ça m'intrigue beaucoup. Quoi.
C'est bien qu'il travaille en vous. Muriel, vous voulez conclure?
Oui, il manque le feu du titre, tout simplement. Mmh. Il manque quelque chose qui dépasse la simple intention de Siama, quelque chose qui déborde.
La modernité serait le feu et le discours. Et...
Oui, le discours.
Le feu brûle le discours. Hein.
Le discours, c'est comme dans la scène où la robe d'Elanel brûle, et puis hop, le discours, il arrive et il éteint le feu.
Bon, allez voir par vous-même. Hein. Je crois que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à l'avoir déjà fait. D'autres le feront sans doute en cette fin de semaine. Allez découvrir Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Nous allons parler ensuite d'Ad Astra, des fleurs amères et de la troisième scène de l'Opéra de Paris.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Ad Astra de James Gray, Roy McBride. Hein, où est-ce qu'ils vont chercher des noms pareils? Il y a peut-être dans le générique, inventeur de noms de personnages. Roy McBride est évidemment un astronaute hors pair. Le pouls ne dépasse jamais 80 pulsations par minute, même dans les moments de stress extrême. C'est bien sûr Brad Pitt. Il va se voir confier une mission, alors évidemment pleine de chausse-trappe. Allez voir si son père, qu'il pense mort depuis 16 ans, ne serait pas en train de faire des bêtises à l'autre bout du système solaire.
This is Major Roy McBride. I'm attempting to reach Dr. Clifford McBride. This is Dr. McBride's son. Dad, I'd like to see you again. I regret.
recall how we used to watch black and white movies together and musicals were your favorite. I remember you tutoring me in math. You instilled in me a strong work ethic. You should know I've chosen a career that you would approve of. I've dedicated my life to the exploration of space. And I thank you for that.
What is happening out there is a crisis of unknown magnitude.
We believe your father may be involved.
My father's dead.
What exactly are you requiring from me?
Exploration isn't always a noble venture. We have to hold out the possibility that your father may be hiding. We have a job to do. Are you ready?
I'm ready.
Bon, nous aussi, on a un job to do, hein, un boulot à faire. Parler de ce film, Ad Astra, de James Gray. Premier avis, premier tour de table rapide, Philippe Azoury.
Allez, portrait du fils électrocuté.
Muriel Joudet.
Non, j'ai pas préparé.
Ah non.
Florence peut passer avant moi. Comme ça, je réfléchis.
En deux secondes, Florence, allez, à son joker. Florence,
Apocalypse Now.
Ah, Muriel, c'est maintenant.
J'ai pas aimé.
C'est pas mal comme début. Allez, Philippe Azoury va développer ce portrait. Je l'ai pas aimé, va nous dire pourquoi tout à l'heure. Philippe.
Moi, j'ai aimé, moi. Et pourtant, Dieu sait que les familles, c'est la question qui m'intéresse le moins au monde.
Ah. La liste de Philippe Azoury. Quoi.
Ouais, alors là.
Je filme. Oui, oui,
oui, je suis
de tous les intervenants de la dispute. Hein.
Oui, tous les intervenants de la dispute, pas plus, pas moins. Bon. Par contre, comment?
Ben, je sais pas, les familles ne vous intéressent pas, ça c'est fait, c'est coché.
C'est tellement immense, enfin, énorme. Presque trop. Et en même temps, à ce point, nu. À poil.
Il a pas dit nul, hein. Il a dit nu.
Non, nu. Au point où on se demande, parce que je crois que le film a coûté quoi, 80 millions. On se demande où ils sont, enfin, on est presque, enfin, au début, un peu, et vers la fin, mais comme finalement, tous les.
Un petit peu au milieu.
Tous les trois ou quatre très très grands films dans l'espace qui sont sortis les 10 dernières années, que ce soit, Interstellar, Gravity plus je trouve, High Life de Claire Denis et celui-ci,
c'est 80 millions de dollars High Life.
Non, High Life n'a pas coûté 80 millions de dollars, mais ils ont tous cette matière incroyable, c'est quand on sort avec l'idée qu'on a vu trois ou quatre très très grands films sur la solitude. Et que cette solitude-là, elle s'accompagne finalement de très très peu d'effets spéciaux, elle s'accompagne d'un très très grand noir et d'un grand sentiment de vide. Et que ça en fait une épopée. Alors que James Gray, qui n'est pas sa première épopée, ait réussi à retrouver à peu près la splendeur de son cinéma et même, à mon sens, la dépasser. J'étais pas très très client, moi, de son précédent film, Lost City of Z, que je trouvais justement lui enfermé dans des références dans lesquelles il ne pouvait pas, enfin, il arrivait pas à dire. Là, je trouve qu'il est au contraire, enfin, il arrive à ce qu'il veut faire, c'est-à-dire à aller jusqu'à Neptune pour ne parler que de ce qui lui fait mal depuis le début. Enfin, tous les films racontent son même rapport au père. Alors, on a envie de lui dire qu'il ferait mieux de lire de Les Guattari, ça aurait réglé tout, mais finalement ça nous aurait enlevé 6 ou 7 très très grands films de l'histoire du cinéma. Et comme il les assume, comme le schéma oedipien est assumé dans ce film-là jusqu'au bout, jusqu'à effectivement nous nouer, même les gens qui ont la famille en horreur, dont moi, voilà, j'y vois un trait de maestria. Ouais.
Mais Muriel Jodet n'a pas du tout aimé, ainsi qu'elle a dit brillamment il y a un instant.
Non, mon avis est beaucoup plus subtil que ma petite accroche.
Comme moi, je croyais.
Que tu es Philippe.
L'enfer.
Pardon.
On ne peut plus jamais inviter ensemble.
Au contraire, à chaque fois.
Non, alors, les films qu'a cité Philippe, donc ça a commencé avec Gravity, Interstellar, First Man de Damien Chazelle.
Mélangeant pas et torchant et serviette.
Non, mais disons qu'il y a tout un pan du film dans l'espace en ce moment qui ils se ressemblent tous. C'est-à-dire que c'est toujours, on va régler son rapport au père, au deuil, à maman. voilà, Gravity c'est le deuil, First Man c'est le deuil. Donc c'est des espaces mentaux. Bon, ça fait 10 ans qu'on a compris ça. Il y a plus ou moins des réussites. Moi j'aime beaucoup First Man, la grande tragédie de James Gray. Oui. Réécouter l'émission.
Mais oui. Je devais y être pourtant.
Oui, oui.
J'ai préféré l'oublier pour continuer à vous accueillir avec joie, Muriel.
Merci. La grande tragédie de James Gray, c'est ce qu'il dit dans la très belle interview qu'il a donnée à Libération, à Julien Gester, qu'il avait ce projet depuis 10 ans. Et que son malheur, c'est d'avoir été dépassé par Gravity, par Interstellar, d'où un effet de redondance quand même. Et moi, la redondance, pour moi, c'est un peu une phase terminale dans ce space opéra psychologique, au sens où ce qui doit rester à l'état de sous-texte est devenu le texte. Quand Brad Pitt est convoqué pour sauver le monde, en fait, ça dure 2 minutes parce qu'on comprend. Très vite, on lui dit « Bon, tu vas aller chercher ton père » et on est à 20 minutes de film et on a tout compris. Tout est déplié, déployé dès le départ. Et ce sous-texte qui devient le texte, moi, me dérange énormément parce que ce que j'aime le plus dans le space opéra, c'est ce pan behavioriste, les boutons, comment ça fonctionne. Alors, il y a ça dans le film. C'est comme 2001. C'est vraiment ces scènes que je préfère là. Et quand on essaye de m'expliquer papa, maman, l'existence et que ça devient métaphysique, moi, 2001, c'est ce que je supporte le moins. Et dans le James Gray, c'est ce que je supporte le moins. Le problème, c'est
qu'il y en a beaucoup.
C'est asséné. C'est-à-dire qu'il y a une voix off. Et un ami me disait très justement que très certainement que cette voix off avait été exigée par les producteurs, par souci de lisibilité. Moi, je pense que le film est en partie...
C'est que la production a demandé qu'on retourne la fin, et donc il a fait une nouvelle fin, voilà. James
comme
Gray.
The Yard,
la voix off...
La voix off, c'est quand même Apocalypse Now, pardon.
Je suis pas sûr que ce soit imposé à James Gray.
Il a l'air tellement déprimé.
Ça me semble vraiment absolument intrinsèquement lié au film.
En tout cas, j'aime pas du tout. Et ça vient écraser la beauté abstraite du film, qui est très belle, qui est en fait, comme le Tarantino, un film où Brad Pitt fait des trucs. Voilà, il marche, il tue des gens. Et moi, ça me suffit en termes de cinéma. Donc, la beauté du
cinéma, c'est faire des jolies choses à des jolis garçons. C'est bien
exactement,
connu.
À Brad Pitt. Pas tous les... que lui.
À Brad Pitt, bon, soyons clairs. C'est tout.
Et donc, pour moi, la beauté du film est totalement ensevelie, mais elle existe. Elle est là, il y a des scènes très belles. Il y a un chef-d'œuvre qui dort sous la voix off.
Florence Colombani, à présent, sur Ad Astra.
Oui, pour moi, Muriel Joudet a prononcé le mot-clé, c'est le mot dépression. C'est un film dépressif. Mmh. Alors, ça produit un effet, je trouve, assez écrasant pour le spectateur. C'est un film qui est vidé d'énergie, qui est vidé de désir même de raconter. Et ce qui est assez fascinant, c'est que James Gray, depuis son premier film, raconte exactement la même chose. C'est-à-dire, il raconte en effet le rapport au père douloureux. Il raconte aussi comment on veut échapper à sa famille, mais on ne peut pas. On est toujours ravalé par sa famille. C'est la fin sublime de Two Lovers, où le personnage de Joaquin Phoenix est repris dans le salon familial. Il n'en sortira plus. Bon, et là, c'est la même chose, mais dans l'espace, c'est exactement pareil. Simplement... c'est la même chose, mais c'est devenu une sorte d'essence de cette chose qu'il racontait avec beaucoup de lyrisme et beaucoup de sorte de profusion romanesque dans les films précédents. Là, on en est à une sorte de trait. C'est comme si c'était du Mondrian, quoi. Il y a un trait qui est ça. Et je trouve que ça produit un film qui est à la fois très beau et très déprimant. Mais parce qu'il porte cette dépression en lui et il porte aussi sa tragédie. C'est ce personnage de Roy McBride qui chasse son père jusqu'à Neptune. C'est bien sûr James Gray qui chasse Coppola jusqu'au fin fond de l'Amazonie, jusqu'au fin fond de la galaxie. Parce que le film fondamental qui hante ce film-ci, c'est Apocalypse Now. Il y a la voix off, il y a la progression lente, il y a la décomposition, la déliquescence intérieure et il y a la déception fondamentale, la découverte que le père, enfin celui qu'on croyait être une idole est en fait un monstre, un être froid, un être qui n'a pas d'affect. Et c'est donc une vision du monde profondément, profondément triste et noire. Donc tout ça fait que, pour moi, le film est assez vertigineux parce qu'il se raconte lui-même. Il nous raconte l'histoire de quelqu'un qui chasse un fantôme impossible. Et le film lui-même chasse un fantôme impossible. Et depuis aussi Lost City of Z, il nous raconte l'histoire de quelqu'un qui s'est attribué une tâche écrasante. importante, et qui lui-même s'épuise et se tue à vouloir accomplir ça. Et on sent bien chez James Gray aussi cet épuisement à essayer d'être le grand cinéaste contemporain, et en même temps, on n'est plus dans cette époque-là. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant.
Alors, c'est vrai que j'évoquais tout à l'heure le film de James Gray quand on parlait de Céline Sciamma, parce qu'il y a quand même un même problème, au fond, pour moi. C'est ici James Gray qui veut s'inscrire donc dans un genre très balisé, et pas seulement depuis 10 ans, hein, depuis bien plus longtemps. Et du coup, bah, il me semble qu'il en ressort un film bancal, parce que c'est un film empêché. Parce qu'on n'en a pas parlé, ça s'ouvre par une séquence extrêmement spectaculaire. Moi, j'ai failli m'évanouir sur mon fauteuil de cinéma. Physiquement, c'est absolument... incroyable ce qu'on voit à l'ouverture du film, donc c'est vraiment digne des plus grands blockbusters. Et il y aura comme ça dans le film 3-4 séquences de pure action qui ne dépareraient pas d'un très bon réalisateur de blockbuster, mais entre ces séquences d'action il y a donc cette voix off. Moi j'ai entendu quand même quasiment que ça pendant tout le film. Alors avec c'est quand même très plombant, cette voix off introspective, hein, on n'a peut-être pas expliqué, c'est celle de Roy McBride, le héros qui se pose des grandes questions métaphysiques avec des majuscules à tous les mots. Et du coup, il me semble que James Gray, tout d'un coup, alors, est-ce qu'il veut donner le change à ses producteurs? Je crois pas. Je crois qu'il a aussi envie de jouer le jeu du film de l'espace. Et il le prend comme un jeu vidéo, en fait, parce que vous avez remarqué que le héros n'arrête pas de décoller. Enfin, d'abord il tombe, après il décolle, il va à un endroit A, alors il décolle, il va à un endroit B, il décolle d'un endroit C, etc. Enfin, et jusqu'à la fin où il arrive, comme dans les jeux vidéo, au niveau du boss, papa. Et donc là, il faut se confronter au boss. Donc il y a un schéma assez simple qui fonctionne très bien. Mais pour moi, il y a deux films qui n'arrivent pas à s'interpénétrer. Et du coup, ça donne quelque chose qui, moi, m'a laissé assez interdit. Je pense toujours que le meilleur film de James Gray est son premier, Little Odessa, que j'ai vu... une quinzaine de fois. Vos opinions, Muriel Jodé, tiens, je vous donne la parole pour le coup.
Oui, non, mais c'est deux forces contraires, hein, comme dans le Sciamma. Les petits boutons, les trucs, le comment ça fonctionne, qui toujours nous fascine. Et quand même, c'est un grand cinéaste qui filme l'espace, et ça se sent.
Oui,
c'est très, très beau, c'est très impressionnant. Quand je dis j'ai pas aimé, c'est faux, en fait. C'est juste que je vois...
parce qu'on est déçu.
J'aime se ramasser comme Brad Pitt, et... Et oui, et la fin, on sent que c'est pas lui, cette fin.
Bon, on attendra l'édition DVD Ultra Director's Cut pour savoir ce qu'il avait lui prévu. Je suis pas sûr que ça sauve le film. Parce que tout le reste.
Non, mais je pense qu'il serait allé encore plus loin. À mon avis, je pense qu'il voulait plus d'abstraction, plus de dépression.
Bah, j'aurais aimé ce film-là, moi, oui.
Mais je pense vraiment, qu'il voulait Brad Pitt qui barbote dans l'espace, pas de voix off. En tout cas, c'est le film que j'entreaperçois et.
Peut-être lui proposer de nous de remonter son film, non?
Oui.
Muriel, vous et moi, on va faire ça.
On mettra des extraits du Sciamma. Et puis...
Version alternative. Philippe Azoré?
J'avais envie de continuer sur ce que disait Florence Colombani. Sur le fait qu'effectivement, Gray se vit, et c'est là aussi un autre point de tragédie pour lui, comme l'héritier.
Ouais.
L'héritier de Coppola, l'héritier de Scorsese. Mais dont il est de facto l'héritier, mais l'héritier dans un monde et dans une industrie qui ne veut plus entendre parler de cela, enfin qui s'en fout littéralement, aussi bien du côté de l'industrie mais que du côté des spectateurs. Et j'allais dire des téléspectateurs, c'est-à-dire des gens qui consomment sur plateforme, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est même plus les films en avion. Moi, j'aimerais bien le voir en avion, celui-là.
Je suis pas sûr. Pas sûr que les compagnies le diffusent.
C'est un très long courrier. Ouais. Mais c'est ce qui était sublime samedi dans l'entretien complètement hallucinant qu'il a.
Génial
l'entretien
dans Libération.
Libé. Enfin, aller voir
l'entretien ça. L'entretien est bien mieux que le film.
Non, ça je suis pas sûr. Enfin, l'entretien en tout cas, l'entretien à cette part de dépression dingue qui est effectivement dans le film et qui est si poignante dans le film. Moi, je sors du film littéralement, mais voilà, enfin terrassé. C'est aussi un entretien qui est fait 2-3 jours après son retour de Venise, et à Venise avec un film pareil, James Gray court après le public. Il ne l'a pas rencontré tant que ça pour en tout cas avoir le soutien d'avoir confiance en lui. C'est quelqu'un qui doute et il a besoin d'une grande reconnaissance, c'est-à-dire d'une palme d'or à Cannes ou évidemment d'un lion d'or à Venise. Et le lion d'or, c'est le Joker, c'est-à-dire c'est un film de Todd Phillips, le mec à la cool un peu comme ça, toujours dilettante, qui a fait Very Bad Trip, qui va le faire avec Joaquin Phoenix en plus, qui est quand même la créature qu'a presque coproduit James Gray au fur et à mesure de ses films, et on a l'impression qu'une fois de plus, enfin ça le détruit, c'est-à-dire qu'il sent qu'il est l'héritier d'un royaume qui n'existe plus, quoi. Et ce qu'il en dit il le dit jamais directement dans Libé, mais la dépression totale de l'entretien de Libé est magnifique là-dessus, parce qu'elle rejoint le film. Enfin c'est quelque chose qui traîne chez lui, enfin l'idée qu'il ne sera jamais papa, il ne sera jamais Coppola, en fait.
Alors, je n'ai pas vu le Joker, donc ce que je dis est fondé sur la bande-annonce, mais le jeu de Joaquin Phoenix dans la bande-annonce du Joker a l'air d'être tellement à l'opposé de ce qu'il a fait avec James Gray, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement subtil, complexe, toujours dans l'entre-deux. Voilà.
Précisons.
Oui. Et alors que dans cette bande-annonce, on a l'impression d'être, en effet, dans le cartoonesque, la caricature, l'extrême. Et je trouve qu'il faut dire quelque chose dans Ad Astra, sur l'utilisation des acteurs. Alors, Brad Pitt apporte lui aussi sa propre part de dépression, me semble-t-il. En tout cas, il a un visage extrêmement mélancolique qui habite énormément l'écran. Mais c'est aussi cette idée d'utiliser Tommy Lee Jones qui est vraiment formidable. C'est-à-dire, quand on arrive à la fameuse confrontation, on se dit quel bonheur de voir cet acteur-là avec ce visage qu'on n'avait pas vu depuis si longtemps, creusé par le temps. Il y a quelque chose de très émouvant dans sa présence, dans son visage. Et on se rend compte comme le cinéma américain n'a plus ces acteurs qui habitent l'écran de cette façon.
Allez, dernier mot pour...
Pour rebondir sur ce que dit Florence, moi, c'est ce qui m'a toujours touché chez James Gray, c'est son utilisation des acteurs âgés, et pas seulement son utilisation, il leur donne vraiment une existence, bon, un quotidien, bon là c'est un peu plus compliqué, mais sa passion et son mélange comme ça d'acteurs intergénérationnels, il est le seul à faire ça. Et je pense que oui, pour avoir vu Joker, je pense que pour lui c'est un enfer total, parce que c'est un blockbuster autorisant, et je pense que c'est son pire cauchemar, mais vraiment, donc je comprends sa dépression et je le rejoins.
Réalisé par le type qui se pose le moins de questions. Voilà, c'est ça.
On en parlera bientôt de Joker. Pour l'heure, on parlait d'Ad Astra de James Gray, qu'on vous invite évidemment à aller voir. Voilà un remix du couronnement de Poppée pour parler de nouveaux films qui arrivent sur cette plateforme, encore une. La troisième scène, la scène numérique de l'Opéra de Paris, qui existe depuis maintenant au moins 3 ou 4 ans, et qui propose régulièrement à des cinéastes, ou non-cinéastes d'ailleurs, de réaliser de courts films en lien avec la programmation de l'Opéra de Paris. Florence Colombani, c'est votre coup de cœur.
Oui, mon coup de cœur, c'est d'abord l'idée de la troisième scène, qui est donc ce pari de l'opéra et du producteur Philippe Martin des films Péléas, les bien nommés.
Qui a repris la troisième scène.
Voilà, qui aujourd'hui pilote le projet et qui donc propose à des artistes, qu'ils soient des metteurs en scène de théâtre. Alors là, il y a le premier film de Julie Delicquet, la metteur en scène star de la saison dernière avec son Fanny Alexandre. Là, elle a fait quelque chose autour de la Traviata qui s'appelle Violetta, qui est très beau. Et qui propose donc à des metteurs en scène de théâtre ou à des figures artistiques comme cette fois-ci Jonathan Little. C'est lui qui s'attaque au couronnement de Poppée. C'est pour ça qu'on a entendu cet extrait. Mais aussi à des cinéastes. Et donc, je vais m'attarder sur un film d'Arnaud Despalières qui sera en ligne le 15 octobre et qui est un film sur Degas. Alors, pas du tout le Degas qu'on va célébrer au musée d'Orsay, qui est le Degas des danseuses et le Degas qu'on aime contempler et de la pure beauté artistique, mais un Degas plus complexe et plus controversé, puisque Arnaud Despalières, avec Michael Lonsdale, en interprète d'un Degas vieillissant, et Bastien Vivès, le dessinateur de bande dessinée, en interprète d'un jeune Degas, nous montre à la fois le génie, et il le fait d'une façon absolument splendide visuellement. Il utilise une caméra de l'époque du muet pour donner l'impression qu'il capte Degas au travail. Il réussit ce tour de force quand même très complexe quand on veut filmer un peintre au travail, à la fois de nous évoquer d'exploiter son art visuel et de rappeler la texture du pastel de Degas, mais sans être dans l'imitation et la lumière exacte et la méticulosité précieuse. Donc il y a un hommage visuel splendide, mais en même temps, il y a la convocation du sinistre Degas anti-Dreyfusard, du Degas antisémite, qui s'exprime par la voix, par le récit d'une femme, une danseuse qui est la cible d'une tirade, d'une diatribe antisémite de Degas. Et donc, il y a là quelque chose qui est passionnant aussi sur l'objet du regard. Degas, peintre fétichiste, j'allais dire cinéaste, mais préfiguration du cinéaste, fétichiste. Face à ça, la réponse féminine, c'est très fort. Et donc, ce sera en ligne le 15 octobre.
Oui, de toute façon, Arnaud Despalières, cinéaste majeur. Et on ne le dit pas assez. Le film s'appelle « Degas et moi ». Il y a donc avec d'autres pour cette troisième scène de l'Opéra de Paris.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Le dernier film à notre affiche ce soir, c'est Fleurs amères, Les Fleurs amères d'Olivier Meiss, dont c'est ici le premier long métrage de fiction nourri par un riche parcours de documentariste pour la radio comme pour le cinéma. On va suivre dans ce film Lina, une jeune femme chinoise qui rêve d'ouvrir un restaurant et part donc pour Paris espérant y gagner de quoi s'offrir l'avenir dont elle rêve. Mais la France, ce n'est pas vraiment l'Eldorado qu'elle imaginait.
咱们好朋友有这么一个好机会，这事儿你得相信我。那么我们现在可以到这边来看一下巴黎的全景。一个月有2天休息时间，你就睡这儿吧。我早点张罗，明年装修好了，你就直接回来当老板娘。我也是这么想的，我都听说是2000欧一个月。
你给我500，少一份都不行。你要是嫌在这边干的不爽的话，怎么不去大地上站？我说啥都不能。C'est
pour la Chine.
媳妇儿，这地儿是敞开了，可我爷俩住的啊。欠那些债咱慢慢还呗，这活人还能让债压死了？东北老乡。啊
Les Fleurs amères, sorti sur les écrans lui aussi, mercredi dernier. Tour de table, Muriel Jodet.
Ça aurait dû ou pu être un documentaire. Enfin, je ne sais pas trop comment formuler ça. Un documentaire, quoi.
Florence Colombani.
Touchant.
Philippe, Philippe Azouret, Chevillé, non, on a d'autres Philippe dans cette émission et c'était Chevillé qui me venait. Philippe Chajoury.
Dans Paris, personne ne vous entend crier.
Une métaphore filée. Allez, Muriel, développez.
Non mais j'ai pas d'avis tranché, c'est le problème avec ce genre de film où il n'y a pas d'enjeu de mise en scène, il y a des enjeux de monstration, de dévoilement d'une réalité, et comme j'avais pas trop d'avis, je suis allée voir le dossier de presse, le cinéaste explique bien qu'il ne pouvait pas faire un documentaire parce qu'il aurait dû flouter les visages et que ça manquerait d'incarnation, et tout tient à cette actrice, donc qui s'appelle Xiki, qui porte le film, qui tient le film et qui dévoile une réalité. Alors, quand on fréquente Belleville, on voit très bien qu'il y a une sorte de réalité parallèle qui est la prostitution chinoise. Et là, on a quand même cette curiosité de se dire « Ah, ça se passe peut-être comme ça », mais c'est une émotion de documentaire, en fait, qu'on a. On se dit « Ah, voilà, elles dorment là, ces prostituées, elles font ça, elles mangent là, elles parlent comme ça entre elles ». Et c'est très troublant parce que, en fait, on est dans une fiction. Et c'est là que je dis, j'aurais voulu être dans un documentaire parce que moi, ça m'intéresse énormément. Et sauf que je ne sais pas où je suis quand je vois le film. Et un documentaire m'aurait vraiment passionné parce que je vois très bien que cette réalité m'est cachée et que je ne pourrai jamais la pénétrer. Et c'est l'endroit du. C'est là que doit se. C'est un endroit de cinéma, mais c'est peut-être plus pour moi un endroit de documentaire.
Oui, mais quand le documentaire est impossible. Comme il l'explique à juste titre.
Oui, mais c'est pour ça que je n'arrive pas à avoir d'avis tranché dessus. Je suis peut-être qu'il était possible. Faut y aller. Voilà, un peu de folie.
Bon.
Défloutons les visages et.
Ouais, on s'en fout de ce qui leur arrive derrière.
Bah hein, oui.
Bah tiens, bien sûr. Hein. Florence Colombani.
Oui, je trouve que c'est un film qui... fort à sa façon, mais en effet, c'est pas un film de cinéma, c'est pas le genre de film dont on débat d'habitude à la dispute, c'est pas un
on
film.
On débat tout genre de film.
C'est vrai,
émission.
Pardon.
Tous.
D'ailleurs. La grâce preuve. À vous, nous avons vu Les Fleurs amères. Non, mais c'est un film qui touche parce qu'on sent la vérité derrière tout ça. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que le film ne reste pas seulement à Paris. C'est-à-dire qu'on a un tout petit peu de l'avant, bon, mais surtout on a le retour. Et alors ça, c'est vraiment très intéressant. Comment on revient après ce que ce personnage a vécu, qui par ailleurs n'a pas été montré de façon putassière
ouais,
du tout.
Hein, et,
mais alors que ça aurait pu, vraiment, ça appelait quelque part des scènes un peu traumatisantes. Là, ça reste très pudique, on comprend... qu'elle subit de véritables traumatismes, mais le metteur en scène ne s'attarde pas. Simplement, il l'accompagne dans son retour et il pose la question de sa relation avec son fils, de sa relation avec son mari et de sa relation avec elle-même, avec sa propre identité. Et ça, j'ai trouvé que là, il y avait une vraie force et il y a une vraie force à cette fin aussi qui reste en suspens, qui pose des questions. Donc, j'ai apprécié l'humilité finalement d'un cinéaste qui n'essaie pas d'apporter des réponses, mais qui présente un itinéraire et qui nous laisse un peu nous débrouiller avec ça.
Oui, on reviendra sur cette dernière partie, notamment avec Noël Joudet, parce que là on est quand même dans le territoire de la fiction pleinement, comme le soulignait Florence Colombani à l'instant. Philippe Azoré, sur ses Fleurs amères.
Moi, je suis surpris quand j'entends Muriel dire qu'il n'y a pas d'enjeu, qu'elle ne voit pas d'enjeu...
De mise en scène.
D'enjeu de mise en scène dans le film, alors précisément je vois que ça. Ouais. Son recours à la fiction, on l'a expliqué, je le comprends complètement. Il y a deux pièges qui se proposaient à Olivier Meis. Le premier, c'est quand même une sorte d'appropriation culturelle, inévitable. Il se trouve que Meis a quand même passé...
Oui, ça fait 20 ans qu'il passe beaucoup de temps en Chine, oui.
Mais il a une exacte distance, c'est-à-dire qu'il ne... Jamais il ne veut parler à la place de ces femmes, et jamais non plus il ne les montre d'un peu trop loin ou comme des, je sais pas, comme des êtres qu'on ne comprendrait pas ou quoi ou qu'est-ce. Il est exactement, et je trouve que là vraiment son rapport au corps, même dans le cadre, est très très fort parce qu'il est exactement à la très très bonne distance de celui qui veut comprendre. Mmh. Et là arrive justement le deuxième écueil dont le film aurait pu souffrir, qui est le jugement moral. Ou quasiment même la condamnation, ou en tout cas porter un jugement moralisant, moralisant, sur ce qu'elles font. Et ce qu'elles sont amenées à faire, en plus. Et ça, jamais le film ne le fait. Et là, et ça explique la dernière partie qui est incroyable, c'est-à-dire l'après. C'est-à-dire comment on explique à un compagnon, à un mari, ce qu'on a enduré sans le dire, et jamais le film ne le dit. Comment on fait pour pouvoir dire ça, parce qu'à un moment donné c'est dit, les choses ne peuvent pas continuer à être cachées, tout en continuant à conserver les liens avec ceux qui vous ont fait tenir. Et je trouve le film passionnant là-dessus. Et la dernière chose sur laquelle je trouve vraiment aussi passionnant, c'est, comme disait Florence, enfin, c'est-à-dire qu'il nous épargne, on voit très très peu les scènes, enfin voilà, de limite, enfin de viol même rémunéré, quoi, on va dire. Et à la place, il construit une sorte de cartographie à partir de quelques lieux. Ça peut être un appartement qui fait 7 mètres carrés, qui est humide, mais qui a une belle vue. Mmh. Et la question de la vue revient sans arrêt dans son appartement en Chine aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui nous fait tenir et projeter? Mais ça peut être aussi comment on appelle ça? J'allais dire plateforme encore, mais les centrales de cabine téléphonique. Ah oui. On peut téléphoner en Chine, au Moyen-Orient, en Afrique. Et là, justement, c'est dans le Dongbai, quoi, en Mongolie intérieure, qu'elle va appeler faire du Skype. C'est aussi les cabines téléphoniques où elle s'appelle elle. C'est divers endroits comme ça qui constitue finalement des points de relais et où on comprend au mieux finalement ce qu'est l'abattement, la tristesse de ce qu'elle vit, et en même temps la sorte de banalité quotidienne qui fait que le film arrive à tenir ce degré de réel, où moi au final la part fiction, j'ai l'impression qu'il a réinjecté le documentaire dans la fiction. Ça fait très très longtemps que les frontières entre les deux sont complètement perméables, donc c'est pas ça pour moi le problème du film.
Oui, d'autant que la fiction nourrie par le documentaire, oui, vous l'avez dit, il y a une porosité qui est à l'œuvre, c'est heureux depuis très longtemps. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que moi j'ai eu un petit peu peur au début du film, que ce soit justement un film très documenté et pas très incarné. Or je trouve qu'il arrive quand même à faire exister cette communauté de femmes, là aussi il s'agit d'une communauté de femmes qui cohabitent à Paris, et qui il y a un sentiment de simple C'est pas expliqué, c'est une sorte d'évidence d'entraide. Elles sont là, elles n'ont pas choisi d'être là forcément. Il y a une réalité qui se propose à elles.
De survie,
survie et puis de pas décevoir aussi. Et puis ça a coûté cher de venir, donc il faut quand même faire quelque chose. Il y a tout un. Moi j'ai lu ensuite pour le coup le dossier de presse et j'ai appris tout le pan, mais qui n'est pas du tout expliqué dans le film. Et c'est bien de savoir qu'effectivement les femmes qui venaient de cette région de la Chine étaient les nounous privilégiés d'autres Chinois immigrés qui eux avaient les moyens, eux sont les bourgeois et se payent les bonnes nounous, et puis tout ça c'est tari. Donc voilà comment est née cette, je résume à grands traits, mais cet épisode de prostitution qu'elles connaissent actuellement. Et moi j'aime bien cette existence là, ces scènes dans l'appartement commun. Je trouve que pour le coup il y a du cinéma, il y a des personnages, que le scénario il est pour le coup plutôt fort, parce que il y a des bascules, il y a des relances, enfin il se complaît pas, ou il n'est pas dans la facilité de voilà je vais suivre juste une personne et être dans le quotidien. Moi j'aime bien ça. Florence Colombani.
Oui, puis il y a une rapidité, c'est-à-dire qu'il ne s'attarde jamais.
Ouais, ça va vite.
On comprend que c'est difficile.
Mais oui,
de
parce qu'il n'explique
travail.
Pas, contrairement à d'autres. Donc
oui,
ça permet de.
Et donc cette rapidité là, elle est
d'avancer.
Très forte. Ouais. Et aussi j'ai beaucoup aimé le fait qu'il se soit pas moralisateur non plus sur la société française, parce que ça pourrait facilement l'être. En plus, venant de quelqu'un qui est français, de nous dire
oui,
les horribles parisiens. Pardon, il est belge.
Par ailleurs.
Autant pour moi. Mais en tout cas, il n'y a pas du tout cette espèce de condamnation de personnages de français épouvantables. Mmh. Enfin, tout le monde essaie de mener sa vie. Il n'y a pas de regard surplombant. Mmh. Et donc, c'est aussi cette façon d'accompagner ces femmes et ces personnages qui... Et c'est vrai, d'ailleurs, jusqu'aux personnages masculins qui ont de mauvaises réactions quand ils comprennent ce qu'ont fait leur femme en France. Mais il n'y a pas là non plus de jugement sur ces personnages. Donc, ça, c'est un grand mérite du film.
Moëlle Jodet.
Non, j'aime bien vous écouter parce que ça me fait. Enfin, je pense que j'aimais le film, mais voilà, je préfère vous écouter. Non, la chose qui me touche, ça arrive pas souvent, donc je vous le signale. Non, la chose que j'aime bien en fait, c'est par rapport à Paris. J'aime bien quand on me montre que Paris, en fait, c'est une coexistence de mondes parallèles, comme Night and Day de Hong Sang-soo, où on voit que des Coréens à Paris, et on les voit dans des bars que moi je connais. Je suis là, mais et j'adore ça en fait quand un cinéaste dit, bah en fait.
Vous voyez pas.
Voilà,
les gens que vous ne voyez pas.
Voilà, les petits Français, on les voit pas dans le film. C'est-à-dire que là, même quand il y a de l'exploitation, c'est...
C'est entre Chinois.
Voilà, tout est entre Chinois, les restaurants, c'est entre Chinois. Et en fait, on voit ça, on connaît cette réalité-là quand on habite Paris. Et ça, je trouve ça... Déjà, c'est une nouvelle vision de Paris. C'est-à-dire que, et puis, c'est Belleville, c'est le sort de quartier gris et rouge où on peut manger à 8 euros. Donc, il y a une réalité comme ça, quotidienne, prosaïque, que je trouve très bien restitué, et forcément ça montre un autre Paris en fait que celui qu'on connaît, Christophe Honoré, bourgeois, et qui existe pleinement, peut-être plus que celui de cinéaste français. Donc c'est ça que j'ai surtout aimé dans le film.
Un dernier mot, Philippe Azoré, sur Les Fleurs Amères.
Non, mais ça paraît aussi sur la mise en scène. Il aurait pu essayer de copier, enfin ça aurait été une spirale d'échec, d'essayer de copier les très très grands Chinois, je sais pas, Ousienne, ou... Non, il reste.
Il reste dans Jiang Ke à la fin.
Oui, un petit peu.
Un petit peu quand même.
Par contamination.
À toute fin.
Mais par contamination, j'ai l'impression.
Oui, bien sûr. Pas par imitation, par désir d'imitation,
Et finalement, il tient sa distance. On se disait merci de nous avoir fait, amené à aller voir ce film. Je ne sais pas si j'y serais allé.
Ça, c'est une semaine qui se termine bien, ça.
Très très belle découverte.
Elle qui aide nous écouter, qui est remercier, c'est merveilleux. Bon, il faut remercier Lucille Comeau et Boris Pinault qui ont vu ce film avant moi et qui ont fortement insisté pour qu'on l'inscrive à ce programme. Donc voilà, moi aussi je les remercie, mais je le fais chaque soir. Allez voir, vous avez compris, Les Fleurs Amères d'Olivier Meis. Et avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. David Dana, que je remercie bien sûr, nous a rejoint pour nous donner la réponse du jeu d'hier. Peut-être avant de nous rappeler la question. Je suis un peu embrouillé, je suis ému en fait. Tous ces remerciements m'ont touché droit au cœur.
La question est, quel architecte a réalisé le musée du Quai Branly? Et la réponse, Jean Nouvel.
C'était pas la question la plus dure de la saison. Ce soir, on va faire gagner des invitations par la rétrospective Kira Muratova. Ça, je suis très content que la Cinémathèque française propose cette rétrospective, parce que moi, j'étais tombé en amour devant le syndrome asthénique que j'ai vu plusieurs fois en une semaine, un des films de Kira Muratova qui est actuellement projeté à la Cinémathèque française à Paris, grande cinéaste, disparue il y a peu de temps dans un genre de désintérêt total. Donc c'est bien de pouvoir remettre le projecteur sur cette auteur. La question, David.
Combien de longs métrages a réalisé Kira Muratova?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Issa Tounboy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir, Alexandre Dang. Réalisation, Alexandre Fougeron. Demain, je serai chez moi, sans doute, ou ailleurs, au théâtre. Demain, je serai au théâtre et dimanche aussi pour préparer l'émission de lundi. 19h, une dispute théâtre. Je serai avec Anna Segalevitch, Philippe Chevillier, Jean-Christophe Brianchon. Nous parlerons de The Way She Dies de TG Stan et Thiago Rodriguez. Orlando, Virginia Woolf, mise en scène Cathy Mitchell. Tarquin de Jeanne Candel, Florent Hubert et Aram Kebadjian.